L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans le LEM, que nous réalisons une fois par mois avec la complicité de l'IFREMER, dont on reçoit cette saison les jeunes chercheuses et chercheurs. Aujourd'hui, c'est une doctorante biologiste qui se penche sur les coquillages. Après les huîtres d'Éline du Génie, aujourd'hui, ce sont les pétoncles noirs et un peu les coquilles Saint-Jacques. Ça se passe tout près, puisque c'est en rade de Brest. Si vous habitez Roscanvel, sachez que vous êtes concerné par une enquête publique à propos de l'ensemencement près de la côte roscanvélite, entre le port du Bourg et celui du Quélerne, sur 55 mètres. On va semer des pétoncles noirs. C'est pour un projet de recherche Masquette auquel participe notre invité, qui est biologiste donc. Bonjour Laure Régnier-Brisson.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter un peu votre parcours de scientifique ?
Oui, donc un parcours assez classique. Donc j'ai commencé par des études en océanographie, avec une licence à Marseille, puis un master à Paris, donc à Sorbonne Université. Et j'ai fait un petit détour par Mayotte après pour travailler sur les tortues et les mammifères marins au sein du parc marin de Mayotte, voilà, avant de rejoindre Brest pour une thèse.
Et alors, comment s'est dessiné justement votre sujet de thèse sur l'écologie ? Je ne sais pas si c'est le sujet exact ou simplifié. L'écologie et la dynamique de la population du pétoncle noir en rade de Brest. Non, c'est peut-être plus compliqué, le vrai intitulé.
Non, c'est un intitulé assez simple, c'est pour dingue. Une thèse. Ça, c'est rare, mais ça existe. Donc, je vais être obligée de faire quelques petits points de contexte pour que tout ça ait du sens.
Pas de problème.
Donc, depuis une dizaine d'années, les pêcheurs coquillés donc, de la façade atlantique sont confrontés à un problème important. Donc on observe des efflorescences de microalgues qui peuvent être toxiques dans certaines conditions. Et les bivalves filtreurs, donc comme notre pétoncle ou la coquille Saint-Jacques, vont accumuler dans leur tissu cette microalgue toxique et donc accumuler plus spécifiquement cette toxine.
C'est quoi par exemple, c'est Dinophysis ou des algues comme ça ?
Des pseudonychia.
Pseudonychia, ouais. Ok. Bon.
C'est aussi une microalgue.
En gros, ça donne quoi ? Une diarrhée ou ça peut être plus grave, non ?
Ça peut être plus grave, en fait, c'est une neurotoxine. Et donc, elle peut vraiment entraîner la mort dans certains cas et des problèmes neurologiques qui peuvent être durables.
D'accord. Voilà. Bon.
Donc, c'est une toxine qui n'est pas grave pour l'organisme marin en lui-même, mais si on le consomme, donc il peut y avoir des gros problèmes de santé publique. Et donc, on observe depuis une dizaine d'années des interdictions de pêche relativement longues et assez régulières, hein, parfois tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, et donc qui posent des problèmes importants à la filière pêche. Donc, ça concerne notamment la coquille Saint-Jacques, parce que la coquille Saint-Jacques a la particularité de se décontaminer très très lentement. Donc, ça met plusieurs mois, voire parfois un an, avant d'avoir des autorisations d'exploitation des semis de coquille Saint-Jacques. Et donc, dans ces cas-là, une possibilité serait de faire un report de pêche, donc de l'activité de pêche, sur le pétoncle noir, donc un cousin de la coquille Saint-Jacques. Mais malheureusement, on observe une chute des stocks très très importante du pétoncle depuis 50 ans. Donc quelques chiffres en rade de Brest. Dans les années 70, on avait environ 700 tonnes à la débarque, alors qu'en 2010, on n'avait plus que 70. Et là, ces 10 dernières années, on observe rarement plus de 30 tonnes à la débarque.
Et ça se pêche comme la coquille ? Enfin, la technique de pêche est la même, en gros, quoi.
C'est à peu près la même. Après, elles sont un peu différentes. La coquille est vraiment enfouie dans le sédiment, alors que le pétoncle va se fixer à un support, donc à un rocher, une coquille d'huître, voilà, un support dur. Donc, c'est de la drague dans les deux cas, mais pas exactement la même. Mmh. Voilà, mais les mêmes navires peuvent faire les deux techniques de pêche.
D'accord, donc l'effondrement n'est pas dû en tout cas à la perte d'un savoir-faire, quoi.
Non, non, bon. Non, c'est plutôt des causes un peu plus environnementales, perte justement de support, donc qui était historiquement beaucoup les coquilles d'huîtres plates qui ont un peu déserté la rade.
Ah, le pétoncle se fixait sur l'huître plate.
Oui,
ah,
oui. Ouais.
Oui, d'accord, oui, en
et
effet.
Et puis aussi, on parle aussi de peut-être l'apparition plus importante de la dorade, qui est un gros prédateur, et aussi de voilà, l'évolution des fonds de la rade qui présente de moins en moins de support pour le pétoncle. Voilà. Mais donc la première étape pour pouvoir proposer cette alternative à la pêche, ça va être de savoir un peu comment redynamiser les stocks. Parce qu'on peut imaginer une pêche durable au pétoncle qu'en redynamisant leurs stocks dans les zones touchées. Et donc, il va nous falloir des données, des informations scientifiques sur le fonctionnement du pétoncle, comment il va grandir en lien avec son environnement, comment il va se reproduire, qu'est-ce qu'il mange, Et un peu la dynamique vraiment au niveau de la rade et au niveau des zones qui peuvent être touchées. Mmh. Ces données-là, on ne les a pas encore. Il y a peu d'études qui ont été faites depuis les années 70 sur le pétoncle. Et donc, c'est vraiment l'enjeu de ma thèse. C'est comme ça qu'elle est née et c'est à ces questions-là qu'elle cherche à répondre.
Et c'est vraiment un substitut, entre guillemets, à la coquille Saint-Jacques en termes gustatifs et gastronomiques, tout bêtement ou...
Alors, gastronomique, oui. Alors, à en croire les connaisseurs, c'est tout aussi bon, voire si on en écoute certains, meilleur que la coquille Saint-Jacques. Il y a certains endroits où ils aiment beaucoup, beaucoup le pétoncle, dans le sud de la France ou en Espagne. Donc, ça peut avoir un intérêt économique vraiment important.
Voilà. J'ai l'impression qu'on ne connaît pas très bien en Bretagne, qu'on n'est pas tellement... Il n'y a pas de tradition de manger du pétoncle, si
Bah, la star des criées, c'est vrai que c'est plutôt la coquille Saint-Jacques. Mais après, c'est vrai que quand on va sur l'estran pour un peu évaluer les stocks et voir un peu ce qui s'y passe, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de pêcheurs à pied au pétoncle. Et donc, potentiellement, y aurait un public.
Et on dit pétoncle. La pétoncle noire, ça veut dire qu'il y a plein de variétés de pétoncle, je ne sais pas.
Alors, c'est en opposition principalement au pétoncle blanc, qui est une autre espèce mais qui ne vit pas exactement dans le même milieu mais qui morphologiquement est assez proche. Donc ce sont des petits pectinidés, donc des mollusques bivalves. Ils ressemblent beaucoup à la coquille Saint-Jacques mais beaucoup plus petits. Il ne va pas faire plus de 8 cm alors que la coquille Saint-Jacques peut faire... pas tout à fait 20 cm, mais voilà, 15 cm, c'est une bonne taille pour la coquille Saint-Jacques, et qui ont une coquille les deux valves, donc on appelle ça les valves, est bombée de chaque côté, alors que la coquille Saint-Jacques, on sait que c'est plat d'un côté et bombé de l'autre, mais ça se ressemble beaucoup.
Donc le pétoncle noir ressemble quand même aussi à une coque, ce qu'on appelle la coque, non ? Enfin...
Alors oui, ce sont tous les deux des bivalves, comme l'huître.
Qu'est-ce que ça veut dire bivalve, expliquez-nous
Alors,
simplement.
Il y a deux grandes familles de coquillages qu'on connaît, qui sont très connues du grand public. Donc on va avoir les gastéropodes, c'est typiquement l'escargot.
Voilà. Donc le bigorneau.
Le bigorneau, ouais. Tout à fait, coquille enroulée sur elle-même avec vraiment une seule coquille. Et le bivalve, donc ça va être ces organismes qui ont une coquille en deux parties, et donc qu'on appelle deux valves. Donc voilà, comme typiquement la coquille Saint-Jacques, ou l'huître, ou la moule, ou le couteau, ou tous les autres coquillages qu'on ramasse souvent en bord de mer.
Et alors, qu'est-ce qu'on sait, en tout cas, de sa biologie au pétoncle noir, et qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Enfin voilà, c'est... Vous disiez qu'on ne savait pas grand-chose, mais on doit savoir un minimum quand même.
On sait que c'est un organisme filtreur, on connaît un peu sa dynamique de croissance, on sait les endroits où on peut historiquement en trouver. Après, c'est vrai qu'on connaît peu de choses sur vraiment l'implication de chaque paramètre sur sa croissance, sur son régime alimentaire très précis. Donc il est ce qu'on s'appelle, on l'appelle filtreur, donc il va vraiment filtrer ce qu'il y a dans l'eau et manger les particules présentes dans l'eau. Mais est-ce qu'il va manger plus des cellules vivantes, donc vraiment des microalgues ? Est-ce qu'il va en sélectionner certaines ? Est-ce qu'il va manger des détritus, donc des petits morceaux de matière morte ? On ne sait pas exactement, donc tout ça c'est des choses qu'on va chercher à comprendre.
Oui, on ne sait pas s'il est végétarien, s'il est,
On l'imagine quand même plutôt végétarien, ouais. Si ça oui, mais après on ne sait pas à quel point il va pouvoir sélectionner sa nourriture par exemple.
Ok, d'accord. Donc c'est ça, en fait vous allez chercher tout ça, vous n'êtes pas la seule je suppose, si vous allez devenir la spécialiste française du pétoncle noir.
Alors on est une équipe, donc j'ai la chance d'avoir 4 encadrants, donc on est quand même une équipe à travailler sur le pétoncle, et il y a aussi qui travaille sur le pétoncle d'autres scientifiques qui eux vont plus s'intéresser à l'évaluation des stocks, voir un peu où il y en a encore en rade de Brest, dans quelle quantité, de quelle taille. Mais voilà, on est nombreux, mais pas tant que ça non plus.
Donc votre thèse a commencé, alors quand exactement ? Enfin, je crois qu'il y a eu des péripéties à cause du Covid.
Ça fait un an et demi, voilà. Mais bon, j'ai eu un petit arrêt dans ma thèse. Voilà, tout ce qu'on devait faire, la grosse manip autour de laquelle s'articule toute ma thèse a été stoppée l'an dernier. Donc il y a eu une année de recherche et développement intéressante, et là normalement on attend les dernières autorisations, et d'ici quelques semaines, 2-3 semaines, on devrait pouvoir lancer pour de vrai l'étude.
Alors ça consiste en quoi cette étude? Alors, justement, on y arrive, c'est ça en fait le projet Masquette, c'est ça hein.
Alors le projet Masquette, c'est un gros projet donc, qui reprend vraiment tous les axes en lien avec les efflorescences toxiques et l'impact sur les coquillages. Donc il y a un axe qui va s'intéresser à la dynamique d'apparition et de disparition des blooms toxiques, des efflorescences toxiques.
Donc là, c'est tous les spécialistes de microalgues.
Tout à fait.
Comme c'est Kevin Drouet, je crois, qu'on a interviewé.
Et ben, justement, il y a une thésarde, enfin une doctorante qui vient d'arriver cette année dans le même laboratoire que Kevin pour travailler sur cet aspect-là.
D'accord.
Voilà, il y a un aspect plus se comprendre les mécanismes de contamination, décontamination, principalement de la coquille Saint-Jacques, mais aussi en comparaison avec d'autres bivalves, donc comme, comme le pétoncle typiquement, qui décontamine plus vite, pour essayer de trouver peut-être des solutions dans ces axes-là. L'axe pétoncle noir, donc mieux connaître le pétoncle pour pouvoir proposer des outils, proposer des connaissances pour une pêche durable, et un axe vraiment situé autour des acteurs de la pêche. Pour mettre en place des outils pour pallier aux problèmes liés aux blooms toxiques. Voilà, donc c'est un projet qui est porté par l'IFREMER et financé par France Filière Pêche, donc vraiment en très étroite relation avec le milieu de la pêche et qui implique des laboratoires donc de l'Université de Bretagne occidentale, de l'IFREMER, des gestionnaires du milieu et aussi les closeries du Tinduf avec qui on travaille pour notamment les naissins de pétoncles.
Ah ouais, donc vous allez nous expliquer comment vous travaillez, et bien sûr. Donc ce projet commence finalement tout juste, à cause du Covid, il commence véritablement, il va commencer là, quoi, en fait.
Voilà, le projet a été initié il y a maintenant 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Mais pour ce qui me concerne, oui, vraiment la grosse manip liée à ma thèse et à l'étude du pétoncle va commencer là, dans 2 semaines.
Très bien. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Et en quoi ça nous concerne directement, en plus, j'ai dit
oui,
en intro.
Oui, en plus, c'est d'actualité. Donc, pour avoir accès à toutes les informations qu'on veut sur le pétoncle, on va vraiment avoir toute une phase de mon projet de thèse où on va travailler directement sur le terrain, dans le milieu naturel.
Donc on a... Oui, c'est étonnant parce que par rapport à justement les huîtres, c'est plutôt des huîtres dans un milieu clos, de laboratoire, etc. Donc là, vous, non. Vous allez
alors,
en rade.
Non,
quoi.
Parce que justement, l'enjeu derrière aussi, c'est en lien avec l'activité de pêche. Donc, il faut qu'on soit dans des milieux réalistes. Mine de rien, on est en rade de Brest, donc ça va nous présenter aussi beaucoup d'avantages pour pouvoir faire des choses de grande taille. On n'est pas sur des semis pour pêcher. C'est vraiment des études scientifiques extrêmement, calibrées vraiment de manière minimale possible pour ne pas impacter le milieu. L'idée, c'est vraiment de pouvoir étudier le pétoncle dans son milieu naturel et avoir des données qui soient vraiment interprétables, qui soient vraiment du suivi.
D'accord. Alors comment vous avez choisi les milieux où vous allez semer du pétoncle?
Voilà, donc l'idée pour avoir un lien entre l'environnement et la croissance du pétoncle, ça a été de sélectionner 3 sites en rade de Brest qui sont contrastés, donc avec des environnements qui vont varier en termes d'influence marine ou plutôt continentale, avec l'influence de cours d'eau, notamment les Lornes, l'Aulne, la Mignonne, avec des salinités forcément qui vont varier, un impact du courant qui pourrait être différent, de la matière organique, vraiment de la matière en suspension qui pourrait être différente, de différentes qualités, des substrats qui pourront aussi varier. Donc on a sélectionné 3 sites, pas forcément pour réaliser, et même pas du tout pour réaliser des semis de pêche derrière, mais vraiment pour leur qualité d'environnement, leur qualité exploratoire, donc au niveau de Roscanvel.
Donc Roscanvel, là, c'est un milieu qui vous intéresse pour quelles raisons hein,
C'est vraiment un milieu océanique, vraiment une influence réellement océanique. C'est le milieu qui est le plus vers le goulet qu'on va étudier.
D'accord. Ouais, on aurait pu croire que c'était assez abrité, mais en fait, non. D'accord.
Okay. Abrité, c'est pas forcément beaucoup exposé en termes vraiment d'agitation, mais c'est un milieu qui est vraiment océanique avec très peu d'apports continentaux.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de grosse rivière en fait, qui débouche
c'est
là
ça,
aussi.
D'accord. Exactement.
OK.
On va avoir le banc de Keraliou, donc pas très loin du pont de l'Élorne. Mm-hmm. Donc là où, pour le coup, va y avoir vraiment un impact de l'Élorne, donc un milieu qui sera un peu plus avec une influence un peu plus terrigène, et le banc du Rose qui est un peu plus au fond de la rade avec des conditions aussi qui vont être assez spécifiques.
Le Rose, c'est quoi? C'est Logona d'Aulas, c'est ça, ou c'est quelle commune? Pour moi, il y a Lens du Rose, donc je pense à ça, mais
oui, c'est ça.
Bon, et donc
vraiment au fond de la rade.
Donc, qu'est-ce que vous allez y faire exactement?
Alors, sur ces sites, on va semer des pétoncles directement, donc sur des zones qui vont être balisées, vraiment bien délimitées. On va On va réenrichir un peu le fond en support pour les pétoncles, donc avec des huîtres mortes, donc qui sont un de leurs supports vraiment historiques et naturels en rade de Brest.
Donc vous mettez des coquilles d'huîtres au fond.
On met quelques coquilles, donc bien sûr propres, nettoyées, tout ce qu'il faut, tout bien. Et par-dessus, on va semer nos pétoncles.
Mais comment on sème des pétoncles concrètement?
Et bien tout bêtement, avec des plongeurs.
Ah ouais, c'est ça, il faut aller sous l'eau, on ne peut pas juste...
Voilà. L'idée, ça va vraiment être de leur créer un petit jardin. Très délimité, et dans ce jardin, essayer de leur proposer des conditions qui leur permettent de trouver le milieu habitable, de leur donner toutes les conditions pour qu'ils puissent grandir bien.
Mais vous n'allez pas jusqu'à les nourrir vous-même, quoi.
Alors,
c'est ça.
Non, justement.
Surtout pas.
Ouais. Surtout pas, parce D'accord. que ça, c'est une des choses qu'on va suivre dans nos sites. Donc, on va semer les pétoncles. Et après...
À quel âge, entre guillemets, enfin, c'est-à-dire que vous allez... c'est au teint d'œuf, hein, c'est ça qui sont...
Alors, c'est au teint d'œuf qui sont produits.
D'accord.
Là, ils sont en phase de fin de croissance, enfin de grossissement, de pré-grossissement à la plage de Sainte-Anne, donc sur la concession du teint d'œuf. Et ils seront semés. Alors là, ils sont nés à peu près en septembre. Mmh. Donc, ils ont 8 mois.
Ah ouais. Et c'est beaucoup pour... Enfin, je ne me rends pas compte. Ça vit combien de temps, un pétoncle?
Bah écoutez, là, on observe déjà la première reproduction.
Ouais, ouais,
donc, à l'échelle d'un pétoncle, ça vit une dizaine d'années.
D'accord.
Voilà, ceux qui sont les plus grands ont déjà l'âge de la première reproduction.
Bon.
Donc, on va les semer. En parallèle, on instrumente les sites, on met des sondes qui vont nous permettre de suivre les paramètres du milieu. Donc, la salinité dont on parlait tout à l'heure, la température, bien sûr. La turbidité, donc, quelle va être la matière en suspension? Et aussi donc voir un peu la fluorescence qui nous permet de savoir s'il y a des algues, donc de la nourriture potentielle pour le pétoncle. Mmh. Et à l'issue de ces semis, tous les 15 jours, donc c'est à assez haute fréquence, on ira sur les trois sites et on prendra des pétoncles.
Pareil, il faut plonger. Hein,
alors
voilà.
Pareil, toujours en plongée.
Mais vous plongez alors du coup?
Alors malheureusement, moi non.
Oh.
Et non, j'ai pas cette chance, mais il y a une très bonne équipe de plongeurs. J'ai un de mes encadrants qui plonge aussi. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir beaucoup de support pour cette partie-là. Et donc on prélèvera des pétoncles, toutes les sources de nourriture potentielles, donc de l'eau, du sédiment, les algues à proximité qu'on peut trouver. Et on récupérera aussi les données des sondes. Ce qui nous permettra, en fait, toutes les deux semaines, d'avoir une idée de leur croissance, donc de combien ils ont grandi par rapport aux deux semaines précédentes, finalement, de l'alimentation disponible pour eux. Avec des marqueurs, on va pouvoir voir si l'alimentation possible se retrouve chez le pétoncle, donc en analysant leur tissu, voir organe par organe comment ils vont grandir, où est-ce qu'ils vont mettre leur énergie, suivre la reproduction, et également suivre les paramètres du milieu. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir vraiment avoir une idée assez bonne de l'effet de l'environnement sur leur croissance, de la dynamique de croissance, de la dynamique de reproduction du pétoncle noir.
Et vous parliez tout à l'heure des prédateurs, enfin des dorades. Vous ne mettez pas de piège photographique pour voir s'il y a des dorades dans les parages ou comment vous faites là, à ce niveau-là?
Alors, les plongeurs ont l'œil quand même. Donc voilà, on sait grâce aux plongeurs qui ont toutes les deux semaines, enfin, on saura. S'il y a des prédateurs présents, donc des étoiles de mer,
des
crabes, enfin, il y a plein de prédateurs.
Beaucoup... Ah ouais.
Voilà, vous me demandez si c'était bon, apparemment, en tout cas, les animaux marins adorent ça. et on voit aussi potentiellement sur le parc, on pourra voir si on retrouve des coquilles de pétoncles brisées,
oui.
Ce qui expliquerait voilà, l'action peut-être d'une dorade qui aurait cassé une coquille.
Comme c'est sous l'eau, les oiseaux ne sont pas concernés par la consommation de pétoncles noirs. D'accord.
En tout cas, pas sur nos sites. Sur l'estran, ouais, peut-être, mais pas sur nos sites.
Et donc, il y a avant de semer les pétoncles, vous faites une enquête publique. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire une enquête publique, en fait?
Alors, en fait, c'est dans le cadre d'une demande d'exploitation de sites du domaine maritime public. Mm-hmm. Donc, il y a des demandes qui sont en cours. Et dans le cadre de ces demandes, donc il y a un certain nombre de structures d'État qui doivent donner, enfin qui doivent valider la demande, donc notre demande, mais également les usagers et donc typiquement les mairies, enfin les communes qui sont en lien direct avec les sites, donc notamment à Roscanvel ou à Caraliou.
Ouais, pourtant, d'après ce que vous dites, il n'y a pas beaucoup d'impact finalement. Enfin, les instruments de mesure, ils ne sont pas très gros, j'imagine. Enfin,
non, il n'y a pas.
Ça ne se voit pas vraiment en fait.
Ça ne se voit pas. C'est vraiment des toutes petites parcelles par rapport aux surfaces qui peut y avoir dans ces zones-là. Mais il faut quand même passer par là pour que tout le monde soit au courant qu'on, qu'on agit sur ces sites et que voilà, qu'il y a des études qui sont faites et pour vérifier que justement, même si nous, il n'y a pas d'impact, être sûr justement que les choses qui se font en rade n'ont pas d'impact sur l'environnement et sur les usagers.
D'accord. Donc, le calendrier, c'est fin de l'enquête publique, c'est quand
Le 19.
D'accord. Après, vous semez, si c'est bon, enfin, on va supposer que c'est bon, vous semez quand?
Ben, normalement, ce sera fin du mois de mai, tout début juin.
Et vous commencez à prélever à partir tout de suite,
tout de suite.
Une semaine, et chaque semaine.
Et toutes les deux semaines.
Voilà. Et donc, vous, en fait, vous serez dans votre labo, surtout, vous ne serez pas sur le bateau en train d'attendre.
Alors, je serai aussi sur le bateau.
Ah oui, voilà, quand même.
Parce qu'il y a quand même à gérer un peu des prélèvements, tout ça. Bon, en ce moment, la place est limitée à bord à cause des mesures de distanciation, mais bah, ça fait partie aussi du travail et puis de la raison pour laquelle on est là, en général. Beaucoup de labos, donc beaucoup de dissections, beaucoup d'analyses, mais aussi derrière, beaucoup d'ordinateurs. Parce que donc, une fois que j'aurai toutes ces données vraiment issues vraiment du matériel brut, quelque part, l'enjeu, ça va être aussi de proposer des modèles, enfin de créer un modèle de croissance individuelle du pétoncle pour comprendre vraiment comment leur environnement, comment les paramètres qu'on étudie sur les différents sites va agir sur leur croissance, sur leur reproduction. Et une fois qu'on aura ces informations-là grâce à la mise en place d'un modèle, on pourra identifier à l'échelle de la rade, mais aussi à l'échelle de toutes les façades impactées par ces problématiques, des sites qui potentiellement pourraient être propices à un réensemencement, toujours dans cette optique de proposer une alternative durable tant en termes de ressources qu'en termes de pêcherie pour les professionnels de la pêche.
Parce que c'est comme ça en fait que ça se fait finalement une pêche aux coquillages sauvages, ils ne sont pas si sauvages que ça, c'est-à-dire qu'on sème finalement des coquillages pour permettre que la ressource ne s'épuise pas, c'est ça?
Alors oui, après ça dépend, il y a des endroits où c'est vraiment du coquillage sauvage, mais de plus en plus, en tout cas pour la coquille Saint-Jacques maintenant, c'est principalement des semis, donc issus d'une culture en écloserie, donc nous, ici, c'est surtout l'écloserie du Tinduf qui produit pour les pêcheurs. Mais de plus en plus, oui, c'est comme ça que la pêche procède.
Et après, il y a des saisons, j'imagine, des ouvertures, des fermetures.
Oui.
D'accord. Et donc, Masquette, c'est en rade de Brest, mais il n'y a pas d'équivalent, je ne sais pas où, je ne sais pas en fait, ailleurs.
Alors, Masquette, justement, alors, je ne l'ai pas précisé, mais la zone atelier, si on peut dire, la zone vraiment d'exercice. C'est la rade de Brest, parce que c'est très simple d'accès pour nous et c'est une zone qu'on connaît très bien. C'est une zone atelier, donc il y a énormément de projets qui sont faits au sein de la rade de Brest. Mais l'idée, c'est de proposer des outils qui soient utilisables dans les autres zones impactées, donc notamment Bretagne Sud ou Baie de Seine, où il y a les mêmes problématiques.
Ah oui, en Baie de Seine, on pêche aussi le pétoncle.
Ouais, enfin, oui, mais surtout, il y a aussi les problèmes d'efflorescence toxique et de pêcherie de coquillages. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer des outils, d'avoir des connaissances qui permettent derrière, qui puissent être utilisées vraiment par l'ensemble des usagers. Quoi.
Ouais. Et quel que soit le coquillage, pas seulement pour le pétoncle noir.
Moi, ce sera sur le pétoncle, mais oui, c'est des données qui pourront être utilisées, notamment en termes de contamination, décontamination.
D'accord. Mais il n'y a pas d'autres semis de pétoncles ailleurs, enfin, je ne sais pas, n'importe dans l'Atlantique, enfin, dans la façade atlantique, puisque c'est l'Atlantique apparemment.
Il n'y a pas de. Pas des visées scientifiques comme le semis qu'on fait nous.
Non. D'accord. Et là, donc, vous les décortiquerez pendant combien de temps? Encore 2 ans en fait?
Quasiment 2 ans, oui.
Ouais, d'accord.
Peut-être un petit peu moins, parce qu'au bout d'un moment, il faudra quand même que je commence à rédiger ma thèse.
C'est mais... ça. Il faudra la présenter en fait.
Aussi. Mais oui, ouais. L'idée, c'est d'avoir vraiment un suivi sur le temps long pour pouvoir avoir des données qui soient robustes et qui permettent d'avoir vraiment une idée de la croissance sur plusieurs années en fait. Pour pas s'arrêter.
Ouais, parce que le projet Masquette va continuer encore après votre thèse. Enfin, je veux dire.
Alors que je ne dise pas de bêtises, il me semble que le projet Masquette est sur 5 ans.
Ouais.
Après, avec le contexte, ce sera sans doute possible de déborder un peu. Mais dans tous les cas, oui, l'idée, c'est que même une fois le projet Masquette fini, tout ce qui aura été acquis comme information dans le projet Masquette puisse être utilisé pour l'avenir.
Mmh. Voilà. Et quand vous, alors c'est encore loin, hein, mais quand vous aurez fini votre thèse, comment est-ce que vous vous projetez
Oui, c'est encore loin.
Ouais.
Mais moi, la recherche, c'est quelque chose qui me passionne. Je pense que de toute façon, à partir du moment où on est en thèse, c'est qu'on a une passion pour la discipline dans laquelle on est. C'est vrai que la recherche, ça m'intéresse énormément. C'est un milieu qui est un peu compliqué quand même. Et parfois, ça peut un peu donner le vertige quand on voit tous ceux qui sont passés par là avant nous. chercher un travail, essayer de coûte que coûte faire de la recherche, même si ce n'est pas évident.
Vous aimeriez quand même continuer la recherche.
Oui, ouais, c'est vraiment quelque chose...
Vous auriez pu aussi découvrir que finalement, rester 2 ans sur le même sujet, 3 ans sur le même sujet, non, c'est...
J'ai eu la chance de vivre un petit peu entre la fin de mon master et le début de ma thèse, donc j'ai la chance de savoir aussi pourquoi je suis là. Ça n'a pas été quelque chose de linéaire. Après le master, on fait une thèse, c'est... Voilà, je sais que la recherche, c'est quelque chose qui me plaît, qui me manque quand je ne suis pas dans ce milieu.
Et en termes de sujet, ça serait toujours les coquillages ou autre chose, enfin, dans vos rêves les plus fous
Je suis très curieuse de nature, donc je pense que je serais capable de m'intéresser à peu près tous les sujets possibles et imaginables, ce qui est parfois un problème d'ailleurs.
C'est vrai, il paraît.
Mais les coquillages, c'est très intéressant, mais je ne suis pas du tout la dynamique de population, l'écologie, donc ce qu'on appelle écologie trophique, donc qui mange quoi, pour être très simple.
C'est intéressant.
C'est des choses qui me passionnent, qui m'intéressent beaucoup, mais après, la recherche, c'est aussi apprendre, se confronter à de nouvelles thématiques, donc on verra. On verra un peu aussi les liens que je peux nouer au cours de ma thèse et où ça m'emmène. Je ne suis pas du tout...
C'est ça, vous gardez l'esprit ouvert.
Voilà, tout à fait.
D'accord. Merci beaucoup, Laure Régnier-Brisson. On vous souhaite une bonne réussite déjà dans le projet Masquette. Et puis on vous retrouvera peut-être plus tard dans votre parcours.
Merci de m'avoir reçue.